Sarah Douce. Chers auditeurs, il y a moins de 2 ans, Benjamin Netanyahou et son parti, le Likoud, perdaient les élections en Israël. Depuis, une coalition politique composite dirige le pays avec à sa tête Naftali Bennett, un nationaliste religieux, et Yair Lapid, un séculier centriste. Tournant historique, choc incroyable pour certains, divine surprise pour d'autres, après avoir dirigé pendant 15 ans l'exécutif, Bibi s'en est allé rejoindre l'opposition. À l'unisson de ces événements majeurs et fort à propos, Jacques Bendalak publie un ouvrage paru aux éditions L'Harmattan et intitulé « Les années Netanyahou, le grand virage d'Israël ». Il y fait le bilan de cette longue période. Nous avons la chance de le rencontrer aujourd'hui pour l'interroger sur son essai. Jacques Bendalak est docteur en économie, chercheur en sciences sociales à Jérusalem. Il a publié de nombreux livres consacrés à la société israélienne et au conflit israélo-palestinien. Jacques Bendalak, vous m'entendez? Vous êtes à Jérusalem, c'est ça?
Oui, absolument. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Bienvenue sur notre antenne à Radio Shalom. Alors, Jacques Bendalak, j'ai bien lu votre livre et tout au long, vous abordez de nombreux sujets dans de multiples domaines et vous évoquez à plusieurs reprises le bibisme. Et vous dites qu'il est devenu l'idéologie dominante en Israël. Qu'est-ce que c'est le bibisme et en quoi est-il si important dans l'histoire de ce pays?
Oui, c'est justement ce qui va marquer les années Netanyahou, c'est qu'il laisse derrière lui un courant de pensée que l'Israélien lui-même appelle le bibisme, c'est-à-dire un mélange de nationalisme, de libéralisme, de populisme, donc un mouvement de pensée qui n'est pas celui du Likoud traditionnel, mais qui est la marque de Bibi. Hein. Vous savez, Bibi, il aime bien personnaliser le pouvoir, et donc il a laissé sa marque, comme aucun autre Premier ministre ne l'avait laissé en Israël. Hein. Ni Rabin, ni Begin, ni Sharon n'ont laissé un courant de pensée derrière eux. Et là, on a une vision de la politique qui, véritablement, est quelque chose de nouveau. C'est ça le grand virage dont je parle dans ce livre durant les 10 ou 15 dernières années.
D'accord. Alors Jacques Bendalak, vous écrivez « Sous Netanyahou, Israël n'a pas résisté à la vague illibérale ». Vous écrivez aussi que Netanyahou a mis en place un libéralisme absolu en économie. Est-il possible d'être simultanément libéral et illibéral, Jacques Bendalak ?
Absolument. Alors c'est là-dessus que Netanyahou a joué, parce qu'il était à la fois pragmatique et idéologique. C'est-à-dire qu'il avait son idéologie, bien sûr, de droite, très libérale et nationaliste, mais il n'a pas hésité à faire le contraire lorsque ses intérêts personnels l'y obligeaient. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une démocratie, on sait ce que c'est la démocratie, mais illibérale, ça veut dire que c'est une démocratie un petit peu autoritaire, très conservatrice, qui favorise la majorité et dénigre la minorité.
À la polonaise ou à la hongroise?
Exactement. Et c'est bien sûr ce type de gouvernement que a mis en place Netanyahou. Et j'allais même dire qu'il a été très loin. J'allais presque dire qu'il est plus proche de la Corée du Nord que de la Pologne. Hein. Parce que effectivement, c'est un régime autoritaire. Oui. Et donc c'est un régime très autoritaire, beaucoup plus que ne le sont la Hongrie ou la Pologne. Et c'est ça ce qui fait l'originalité du bibisme.
D'accord. Donc c'est à la fois un pragmatisme, un opportunisme, libéral en économie et illibéral dans la gestion du pays.
Absolument. Alors tout ça, ça se résume en un mot, le populisme.
Le populisme, c'est un populiste.
Mais absolument. Jacques... C'est-à-dire qu'il fait tout pour satisfaire ses électeurs, même si ce qu'il doit faire va à l'encontre de son idéologie libérale. Par exemple, en économie, on est très libéral, mais lorsqu'il le faut, eh bien, on maintient des monopoles qui sont contraires au libéralisme, parce que ça satisfait certaines couches de la population.
Il n'y a pas de concurrence.
Exactement.
D'accord. Mais alors, Jacques Bendalac, des élections ont eu lieu, le Likoud a perdu. Il y a donc alternance, et puis là, la règle, elle est respectée. Pourtant, vous estimez que le bibisme a fragilisé la démocratie israélienne. C'est quand même une accusation assez grave. Qu'est-ce qui vous permet de dire cela? Quelles lois et quelles institutions ont été fragilisées en Israël?
Oui, parce que durant les 15 années de pouvoir de Netanyahou, il a mis fin, ou il a sonné la fin des contre-pouvoirs. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour saper les fondements de la démocratie. Il s'est attaqué à la justice lorsque celle-ci prenait des décisions à son encontre. Il a attaqué la Cour suprême.
Oui.
Hein, il a jeté le discrédit sur le Parlement. Il a attaqué les médias de façon très, 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 très forte. Et donc, oui, il a remis en cause les fondements de la démocratie, même si cette démocratie, elle existe, puisque, effectivement, les élections ont lieu encore régulièrement. Il a mis en place ce que les organisations internationales appellent une démocratie défaillante, c'est-à-dire qui, même si la légitimité vient des urnes, les fondements de cette démocratie ont été remis en cause par la gestion, par la gouvernance de Netanyahou et de ses gouvernements, qui a tout fait pour, bien sûr, rester au pouvoir. Il faut bien comprendre, hein, l'objectif final de Netanyahou, c'était de conserver son poste au pouvoir.
D'accord.
Et là-dessus, il était prêt à faire tout, y compris à attaquer la Cour suprême, qui est quand même une institution importante, attaquer les médias pour rester à son poste de Premier ministre. Il y est arrivé pendant 15 ans. Et puis, les urnes, ou j'allais dire, les circonstances politiques, on en voulait autrement.
D'accord. Vous évoquez dans votre livre quelques enquêtes internationales concluant que les Israéliens, je cite, « sont heureux de vivre dans leur pays ». Vous rappelez aussi dans votre livre que sous Netanyahou, je vous cite aussi, « ces 20 dernières années, le pays a connu un développement économique exceptionnel ». Oh, alors, cette prospérité et ce bonheur, est-ce qu'elles ne sont pas un bon point pour le bibisme?
Alors oui et non, vous savez, hein, d'un côté, j'allais dire, l'argent ne fait pas forcément le bonheur. D'un autre côté, Netanyahou a bien réussi dans la mesure où il a réussi à se déclarer comme le défendeur des classes défavorisées.
Oui, oui.
Et en fait, il a été réélu régulièrement, justement par les plus pauvres. Hein, ce sont les plus pauvres qui ont voté Netanyahou, les pauvres, les religieux, les séfarades, c'est-à-dire des catégories qui ont du mal à boucler les fins de mois, mais qui ont donné confiance à Netanyahou parce qu'ils ont vu en lui le sauveur de la nation pendant les moments de guerre, pendant le Covid. Hein, et tout ça a fait qu'effectivement, beaucoup d'Israéliens se déclarent aujourd'hui heureux de vivre en Israël.
D'accord, mais comment vous expliquez justement ce paradoxe que vous soulignez dans votre livre, que Tel Aviv, le nord de Tel Aviv bourgeois vote pour la gauche et que les villes de développement périphérique votent systématiquement le Likoud dans sa version la plus dure?
Oui, absolument. Alors ça, c'est très caractéristique. Ça n'existe pas seulement en Israël, mais en Israël, c'est très poussé. La droite vote à gauche, les riches votent à gauche et les pauvres votent à droite. Alors ça, c'est le résultat de cette politique bibiste qui a consisté à rechercher sans arrêt le soutien des plus pauvres, des plus religieux, hein, des séfarades en fait, hein, et qui fait que ce sont eux qui l'ont soutenu tout au long de ces 15 dernières années. Hein. J'allais dire, le vote en Israël, c'est un vote identitaire, culturel, religieux, et pas forcément économique. Et donc, les plus pauvres votent régulièrement en Israël pour la droite, et notamment pour Netanyahou.
Alors, il y a quelque chose qui m'a étonné aussi, c'est que vous affirmez que, durant toute la période du bibisme, le statu quo politique a accru l'isolement d'Israël. Moi, j'avais l'impression que ce sont plutôt les Palestiniens qui se trouvent isolés, surtout après la signature des accords d'Abraham, qui implique les Émirats du Golfe Persique, le Maroc, avec l'assentiment de l'Arabie Saoudite. Et puis, il faut savoir que les accords de paix, ils se sont renforcés avec l'Égypte. Et puis, ils se maintiennent quand même avec la Jordanie. Alors, pourquoi vous dites qu'Israël se retrouve plus isolé? Moi, j'ai l'impression que c'est le contraire.
Non, Israël est isolé au Proche-Orient.
Le Proche-Orient, oui.
Oui, alors, non, parce que Netanyahou n'a rien fait pour améliorer les relations avec l'Égypte, ni avec la Jordanie, ni bien sûr avec les Palestiniens. C'est une paix froide qui existe avec l'Égypte et la Jordanie, qui est à l'heure actuelle améliorée par Bennett.
Il y a des accords sécuritaires très importants, et l'Égypte joue un rôle fondamental dans la gestion du terrorisme du Hamas.
Oui, mais Netanyahou n'a jamais rencontré un dirigeant égyptien. Contrairement à Bennett, qui la première chose qu'il a fait en arrivant au pouvoir a été de se rendre en Égypte. Hein. Donc c'est une paix froide, hein, une paix froide avec l'Égypte, une paix froide avec la Jordanie. Alors bien sûr, il a été facile pour Netanyahou de faire la paix avec des Arabes lorsqu'ils se trouvent très loin, les Émirats et le Maroc, mais beaucoup plus difficile de faire la paix dans la région, puisque la paix avec les Émirats s'est faite au détriment de la paix avec les Palestiniens.
D'accord, donc vous considérez que le principal problème, le problème israélo-palestinien, il n'est pas du tout réglé?
Absolument, absolument. Il n'est non seulement pas réglé, mais il va en s'aggravant, puisque le temps ne joue pas forcément ni pour les uns ni pour les autres.
D'accord. Alors autre chose, vous soutenez que le bibisme a profondément changé Israël. Alors je vous pose une question ontologique presque. Est-ce que c'est pas plutôt Israël qui a profondément évolué ces 30 dernières années? On est passé d'une société socialiste homogène en voie de développement à une société capitaliste communautarisée et hyper technologique. C'est ce que vous décrivez. N'est-ce pas ce nouvel Israël que le bibisme incarne et pas le contraire? Est-ce que c'est pas les changements profonds qui ont eu lieu ces 30 dernières années qui ont un peu appelé Netanyahou au pouvoir?
Est-ce qu'il y a une rencontre? Sauf que Netanyahou a réorienté ce type de développement vers une gouvernance qui est la sienne. C'est vrai qu'aujourd'hui, Israël s'est considéré comme la nation start-up, dont Netanyahou s'est souvent vanté, mais il a largement aggravé les inégalités sociales, les tensions intercommunautaires. Tout cela, ce n'est pas le résultat de 30 ans de développement économique, c'est le résultat direct de l'application du bibisme en Israël. Les inégalités sociales, la cherté de la vie, les tensions communautaires, le blocage du processus de paix, la corruption des institutions, tout ça, c'est l'héritage bibiste que nous avons aujourd'hui, en 2022, même si les résultats économiques sont relativement bons.
D'accord. Alors écoutez, il nous reste 3-4 minutes, là, on va faire une petite conclusion. Je voudrais vous demander, est-ce que les grandes manifestations anti-Bibi, dites manifestations de Balfour, est-ce que l'échec du Likoud aux élections de 2021, et surtout, est-ce que la résistance de la fragile coalition gouvernementale au pouvoir, est-ce que tout cela, c'est le signe de la fin du bibisme en Israël? Est-ce que c'est, ça y est, on est au bout de l'épisode, du cycle, on est au bout de l'histoire, quoi, de cette histoire-là, en tout cas?
Alors, pas forcément, puisque Netanyahou est susceptible de revenir au pouvoir éventuellement, si des élections venaient à se refaire prochainement, et donc à remettre en place un type de gouvernance bibiste. Les réactions, les révoltes populaires pourraient aussi revenir. Je ne crois pas que ce soit la fin du bibisme tant que Netanyahou reste dans la vie politique. Et comme il refuse de quitter la vie politique, comme le demandent d'ailleurs beaucoup de députés du Likoud aujourd'hui, et qu'il serait prêt à revenir, il n'est pas impossible qu'on ait un rebondissement du bibisme dans les années à venir.
Et, et le retour de Netanyahou, pour vous, c'est pas bon. C'est pour Israël, c'est pas...
du point de vue de la démocratie israélienne, ce serait, sans exagérer, une catastrophe. Parce qu'il continuerait dans la même voie qu'il avait suivie, de remettre en cause sans arrêt la justice, le Parlement et tous les fondements de la démocratie israélienne. Et bien sûr, continuer à bloquer le processus de paix avec les Palestiniens.
D'accord. Bah écoutez, merci d'avoir participé à notre émission, Jacques Bendalak. Le quart d'heure est passé et d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Allez, bonne continuation. Bonne semaine à tous et à toutes. Et à dans 15 jours sur Radio Shalom. C'était Paul Ouzi Meyerson à l'antenne avec Chronique pour la paix.